Chapitre 2e. Maupassant a d'abord écrit des vers, c'est la règle. La forme versifiée est celle qui s'impose aux littératures commençantes et aux littérateurs qui débutent. Presque tous les maîtres de la prose contemporaine ont commencé par écrire des vers. Monsieur Alexandre Dumas lui-même en a fait. Ils ont ensuite témoigné de leur sens critique en ne recommençant pas. Deux pièces, Au bord de l'eau et Vénus rustique, contiennent le meilleur du recueil intitulé « Des vers ». Elles ne sont pas médiocres. Encore ne font-elles pas regretter que Maupassant n'ait pas persévéré. C'est qu'en effet, nous n'y trouvons rien qui ne se retrouve dans les livres qui ont suivi. Ce sont des histoires sensuelles, contées en un style dru, qui, en dépit des rimes, restent très voisins de la prose. Maupassant n'était pas né poète. Cela ne veut pas dire qu'il ne fut pas capable de sentir en poète. La poésie ne tient pas tout entière dans le lyrisme, ni surtout dans une certaine sorte de lyrisme, dans les effusions sentimentales et dans le rêve. Maupassant écrit quelque part « Je sens frémir en moi quelque chose de toutes les espèces d'animaux, de tous les instincts, de tous les désirs confus des créatures inférieures. J'aime la terre comme elle et non comme vous, les hommes. Je l'aime sans l'admirer, sans la poétiser, sans l'exalter. J'aime d'un amour bestial et profond, méprisable et sacré, tout ce qui vit, tout ce qui pense, tout ce qu'on voit, car tout cela, laissant calme mon esprit, trouble mes yeux et mon cœur. Tout, les jours, les nuits, les fleuves, les mers, les tempêtes, les bois, les aurores, le regard et la chair des femmes. » Lui-même est ici dupe des mots quand il parle de cet amour de la nature qui ne la poétise pas, car ce sentiment d'une communion avec tous les êtres est par excellence un sentiment poétique, et celui-là même qui défraie une bonne partie de la poésie des anciens. Mais ce n'est pas par le sentiment qu'un poète se distingue de celui qui ne l'est pas, c'est par le don de l'expression. Ce n'est pas par la tête ou par le cœur qu'on est poète, c'est par l'oreille et c'est par les yeux. Il faut être sensible à l'harmonie particulière des mots, à la sonorité des syllabes, aux effets du rythme et de la cadence. Il faut en outre être prédisposé à traduire ses idées en images. La phrase de Maupassant, d'une harmonie pleine et d'un dessin arrêté, n'est pas musical. Son style est plus précis qu'il n'est imagé. Boule de Suif, La Maison Tellier, Mademoiselle Fifi, Les Contes de la Bécasse, Claire de Lune, Les Sœurs Rondoli, auxquels il faut ajouter Une Vie, Bellamy, Montoriol, sont les livres d'après lesquels on a une fois pour toutes arrêté la physionomie d'écrivain de Maupassant. Ce sont livres d'un conteur de santé exubérante, de verve abondante, de gaieté bruyante, à la touche brutale, au rire cynique. Boule de Suif est un défi tranquillement jeté à toutes les conventions sociales et à quelques convenances, à la pruderie bourgeoise et à l'hypocrisie mondaine, une sorte de gageur et de comique réhabilitation de la fille, qui se trouve incarner l'idée de patrie et personnifier toute seule la résistance à l'ennemi. La Maison Tellier est un exercice du même genre. L'auteur s'y amuse visiblement à scandaliser les badauds en leur montrant l'humanité vue de l'intérieur d'une maison de tolérance. Le conteur prend soin de nous avertir par les courts préambules qui précèdent la plupart de ses contes et qui ne sont pas inutiles. C'est après boire, à l'issue d'un repas d'hommes, quand les cerveaux sont échauffés par les vapeurs du vin et par la fumée des cigares. C'est l'heure où des profondeurs de l'être remontent et affleurent la bestialité qui n'est absente pas même des plus intellectuels d'entre nous. Il faudrait, pour l'ignorer, n'avoir jamais suivi au fumoir des hommes distingués et graves. Le commis-voyageur qui est en nous réclame ses droits. Il a besoin de plaisanteries énormes et grasses. Maupassant l'en a fourni libéralement. Une bonne moitié de ses nouvelles appartient au genre qu'on appelle gaulois. On sait quels en sont les thèmes ordinaires. Ils ne sont pas variés. Et peut-être le premier mérite du conteur en pareille affaire est-il d'avoir évité la monotonie. Mais ce genre est toujours en possession de plaire dans un pays où l'imagination nationale, se développant librement, s'est exprimée par les fabliaux, et chez un peuple qui range parmi les joyeux de sa littérature les contes de La Fontaine et ceux de Voltaire. La gauloiserie, à de certaines époques, s'est faite raffinée et savante, et elle est alors devenue ce qu'il y a sans doute, parmi les choses écrites, de plus répugnant et de plus odieux. Contre ce défaut, du moins, Maupassant a été toujours tenu en garde par la verdeur de son imagination. Dans son fond, et au plus large sens du mot, il est un Gaulois. C'est encore à la manière de nos aïeux qu'il se plaît à narrer des aventures plaisantes et des récits de bonne farce qui ne prétendent qu'à provoquer le rire, un gros rire sonore et sans pensée. Et donc, dans ces histoires, des personnages défilent d'une laideur triviale, d'une difformité grotesque, d'un ridicule excentrique, et aussi de solides garçons aux reins prodigieusement exigeants, jetés à la poursuite de femmes dont les résistances, dans les rares cas où elles résistent, sont invariablement vaincues, mais dont la chute a lieu parfois sur un canapé et d'autres fois au revers d'un fossé, car il est des distinctions sociales. Ça et là éclatent des récits tragiques, puisqu'on ne saurait oublier que l'homme est par nature un animal méchant, féroce en même temps que lubrique, et doué de l'instinct de destruction. Quelques études s'y rencontrent aussi, qui toutes mettent en relief l'égoïsme foncier de l'homme, et tantôt son immoralité inconsciente, tantôt les perversions chez lui de l'idée morale, et jamais de détente, jamais une note de tendresse ou de pitié, mais toujours la violence de l'observateur sans illusion, du moraliste ironique et dur. Sans doute, ces traits jusqu'au bout resteront ceux de la physionomie de Maupassant. Pourtant, on les verra dans la suite ou s'adoucir ou se compléter par quelques autres, dont le voisinage donnera à l'ensemble moins de rudesse. La littérature de ces 10 dernières années a été marquée par un attendrissement de l'âme humaine qui en a été aussi un élargissement. Nos écrivains ont compris que si, comme la science semble tendre à le démontrer, la nécessité est la loi de l'activité humaine, non pas cette nécessité extérieure telle que la concevaient les anciens et qui appelaient les luttes héroïques, mais une nécessité intérieure provenant des instincts de notre nature et des penchants hérités et féconds dans des fêtes obscures. Il faut donc plaindre cette humanité pour des misères auxquelles il n'est pas en son pouvoir d'échapper. Le mépris est un déni de justice et il ne sert de rien de haïr. Maupassant n'est pas demeuré étranger à ce mouvement. À mesure qu'il avançait, il s'y abandonnait davantage. Il ne se contente plus de se placer en dehors de ses personnages pour faire saillir leurs ridicules et leurs travers, pour éclairer les replis obscurs où se cachent de puissants et honteux mobiles, ou encore pour les humilier devant l'inutilité de leurs efforts et devant les résultats dérisoires où aboutissent leurs meilleures intentions. Mais, pénétrant en eux, il suit avec eux leur voie douloureuse. Yvette est l'histoire d'une fille de courtisane contrainte, par la fatalité de ses origines et du milieu où elle a été élevée, à devenir telle à son tour que sa mère. Ses velléités d'être une honnête femme, une révolte de pudeur instinctive, une tentative désespérée pour s'évader, tout sera inutile. La condamnation a été portée par avance et sans appel. C'est le demi-monde avec son dénouement vrai. Mademoiselle de Sancenoy devenant non la femme, mais la maîtresse d'Olivier de Jalin. Et cela est si admirablement présenté, sans déclamation et sans vain apitoiement, que nous sommes saisis sur la fin par la tristesse de cette souillure imposée par la vie à une créature humaine. Monsieur Parent est un de ces bourgeois bonasses et crédules que leur niaiserie prédestine au sort de Georges Dandin. Mais cette fois, l'auteur ne s'égaie plus aux dépens de ce brave homme. Il le rend intéressant par sa confiance même et par la coquinerie de ceux qui le trahissent, respectable par cet élan de son cœur soulevé de tendresse paternelle pour l'enfant né d'un autre. La mésaventure de Monsieur Parent, ce n'est plus un vulgaire accident, c'est un malheur, le malheur où sombre toute une vie, et qui fait d'un homme désormais sans courage et sans dignité, je ne sais quelle épave incertaine et quel débris sans nom. Mademoiselle Perle, où s'entendent les battements étouffés d'un cœur discret et qui s'est sacrifié volontairement, Mademoiselle Perle est peu sans faux une nouvelle sentimentale. Dans la petite roque, Maupassant étudie ce problème, l'un des plus angoissants qu'il y ait. Comment un honnête homme peut-il, dans une heure d'aberration, devenir l'égal des pires criminels, en proie désormais aux remords et tremblant chaque soir au retour des ténèbres où il verra dans l'effacement de toute chose réapparaître l'image lumineuse de son crime? Maintenant, il n'ignore plus que dans le cœur des hommes agités par tant de sentiments contraires, des batailles se livrent, et combien la lutte est douloureuse contre l'envahissement d'une idée. C'est ce qui donne à ce roman de Pierre et Jean son allure tragique. Un fils se sent peu à peu gagné par le soupçon, et enfin empli par la certitude que sa mère a eu un amant. Toutes ses idées sur le monde en sont brusquement bouleversées. Il a vu, suivant une belle expression qui est de Maupassant, l'autre face des choses. Et pour l'avoir vu, il se déprend à jamais de cette vie d'apparence et de mensonge. Il ira, cœur brisé, loin de ceux qui peuvent vivre calme dans l'infamie, heureux par le bien-être, acheté honteusement. Mais voici qu'à l'instant de partir, après avoir pendant des mois souffert et fait souffrir, et que ce soit lassitude ou pitié, il sent se produire en lui ce curieux phénomène de l'apaisement. Il n'a plus de haine. Dans Fort comme la mort, qui nous retrace l'agonie du cœur d'un vieil homme amoureux d'une jeune fille, c'est décidément la pitié qui triomphe. Quand le peintre Olivier Bertin, vaincu par la violence d'une passion sans espoir comme sans raison, éprouve le besoin de crier du moins son mal, c'est auprès de l'amante délaissée qu'il trouve un refuge, auprès de l'amante qu'il n'aime plus et qui souffre tant de n'être plus aimé. En ses derniers livres, c'était les crises des âmes qui intéressaient Maupassant, singulièrement revenu de son impassibilité de jadis. Il avait repris à son tour cette forme du roman de psychologie qui redevenait à la mode. Il l'avait prise telle qu'il la voyait pratiquer autour de lui. Dans Notre cœur, la description des élégances mondaines ne tient guère moins de place que dans les romans les plus réputés à ce point de vue de M. Bourget. Maupassant avait une inquiétude de se renouveler qu'on n'a pas assez remarquée. Ses plus récentes tentatives allaient vers le théâtre. Si je n'insiste ni sur Musotte ni sur La paix du ménage, c'est qu'il y a dans l'une beaucoup de M. Jacques Normand et dans l'autre beaucoup de M. Alexandre Dumas. Aussi bien dans l'une et dans l'autre, ce qu'il y a de meilleur n'est-il pas ce que ces pièces ajoutent aux nouvelles d'où elles sont tirées ?